Vous allez entendre la rediffusion de Frontières, le magazine des masters en journalisme de l'ULB. Il a été diffusé ce mercredi 19 mars en direct depuis Tour et Taxi. Bonne écoute sur Radio Campus.
La frontière, c'est l'affirmation que tout ne se vaut pas, qu'entre nous et les autres, il y a une différence.
La frontière, on a autant de raisons de la redouter que de l'aimer. Moi, j'ai les deux.
This is a new dimension in sound. This is
what I want to hear already.
Passer la frontière sans encombre, retrouver ma chérie, voir l'herbe grasse sous les décombres et croire en l'avenir même quand tout est bel et bien fini.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de l'émission Frontières sur Radio Campus, diffusée en direct de l'exposition Vue à la radio à Tour et Taxi. Vous l'avez compris, c'est une émission un peu particulière. Nous avons quitté l'Université libre de Bruxelles pour passer une heure en compagnie d'un charmant public. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous allons tenter d'explorer une frontière qui nous sépare, une zone de confrontation et de tension qui agite votre quotidien. L'objectif, secouer vos préjugés. La frontière du jour est une frontière omniprésente dans notre société. Elle structure notre construction identitaire. Elle nous sépare dès la naissance. C'est la frontière des genres, n'est-ce pas Lola ?
Oui Alice, dans notre société, seuls deux genres sont reconnus. On est un homme ou on est une femme. Et pourtant, nombreux sont les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce système binaire. Alors attention, il faut bien distinguer l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Ce sont deux choses complètement différentes. L'identité de genre, c'est le genre par lequel une personne se définit et est socialement reconnue, alors que l'identité sexuelle concerne les attirances et les préférences sexuelles d'un individu. Les personnes transgenres souffrent d'un manque cruel de reconnaissance en Belgique et presque partout dans le monde d'ailleurs, que ce soit sur le plan légal, sur le plan médical, mais surtout sur le plan social. Bon, il y a quand même quelques légères avancées. L'Argentine, le Danemark et la Suède, par exemple, ont reconnu de nombreux droits aux personnes transgenres. Ces pays ont facilité les possibilités de changer de genre et donc de vivre en adéquation avec son identité. Plus anecdotique, mais intéressant tout de même, la version américaine de Facebook permet depuis une dizaine de jours de s'identifier selon une cinquantaine de genres différents. Cela fait une sacrée différence. Comme vous le voyez, il y a des avancées dans la reconnaissance des personnes transgenres, mais elles sont très lentes. La différence fait peur. Mais que faire donc des personnes qui ne savent pas se fixer d'un côté ou de l'autre de la frontière ? Être hors de la norme doit-il empêcher le vivre ensemble ? Faudrait-il éventuellement reconnaître un troisième genre, voire plus ? Voici les questions que nous aborderons aujourd'hui dans Frontières. C'est en informant que nous ferons tomber les barrières.
Et tout de suite, le sommaire de cette émission. Au programme, portrait d'Elora, une jeune personne transgenre de 26 ans qui nous parle de son changement identitaire. Rencontre avec l'ASBL Genre Pluriel, elle défend les personnes transgenres et intersexuées. Nous découvrirons son travail de sensibilisation et ses revendications. Enfin, notre journaliste Romain s'est immergé dans un monde nocturne haut en couleurs. Il a exploré pour nous les coulisses d'un spectacle transformiste où les genres s'hybrident. En plateau, pour nous accompagner tout le long de cette émission, nous guider à travers cette frontière, Madame Esther Hirsch. Esther Hirsch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin sexologue et vous travaillez au service psychiatrique du CHU de Bruckmann. Merci d'être avec nous.
Et d'Erasme.
Et d'Erasme. Merci d'être avec nous. Une longue traversée donc nous attend pour explorer cette frontière des genres. Bienvenue à bord, chers auditeurs. La première étape de ce voyage commence dans les rues de Bruxelles. Nous sommes venus à votre rencontre avec cette question. Est-ce que l'on est homme ou femme ou est-ce plus complexe ? Voici vos réponses.
Les hommes et les femmes, et c'est bien distingué. Quand on est homme, on est censé sentir homme aussi en sa tête. Enfin, selon moi.
Ou on est viande ou on est poisson, on n'est pas tous les deux.
On est comme on est et ensuite on peut avoir des intérêts qui peuvent être mixtes peut-être, mais en soi, le genre ne change pas.
C'est peut-être lié à un problème d'éducation, de mal-être.
On est homme, et puis bon, il se sent femme. Pourquoi pas ? Mais il naît femme et homme en même temps, ou s'arrête la science-fiction ?
La nature humaine, c'est d'être méfiant par rapport aux choses qui sont différentes. Donc on aime bien définir les choses d'une certaine manière et qu'on a un petit peu du mal avec, avec ce qui nous apparaît comme, comme moins évident, comme moins normal.
Se sentir autre dans un corps qui n'est pas le sien, bah ça, enfin, ou en tout cas qu'on ne reconnaît pas, ça doit franchement pas être facile à vivre et encore moins peut-être dans notre société.
C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sentent mal dans leur peau et je trouve ça un peu absurde de leur dire « Non, t'es né homme, t'es né femme, donc maintenant tu te démerdes avec ça, même si t'es malheureux, je trouve ça un peu dommage. »
La loi peut pas définir elle-même si, pour une raison ou une autre, c'est plus un homme ou une femme. Je pense que c'est vraiment un choix personnel.
Je trouve qu'on peut pas vraiment distinguer dans deux genres spécifiques. C'est libre à tout le monde. C'est pas la société qui doit vraiment mettre tu dois être ça, ça ou ça. C'est toi-même qui dois choisir, quoi.
Physiquement, t'es une femme, je suis un homme, ça se voit, tu vois. Mais si dans ta tête c'est différent, bah dans ta tête c'est différent, c'est pas moins légitime, quoi. C'est une question de liberté, quoi, non?
Alors longtemps, dans le début de ce micro-trottoir, pour beaucoup de personnes, on reste dans une construction binaire des genres. On est homme ou on est femme de l'autre côté. Alors Esther Hirsch, est-ce que c'est plus complexe que ça?
Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que entre être que homme ou être que femme, je veux dire, même les hommes qui sont sûrs d'être des hommes ou les femmes qui sont sûrs d'être des femmes, ne sont pas que masculins dans un cas ou que féminins dans l'autre cas. Bon, en théorie, faudrait qu'un homme soit plus masculin que féminin, peut-être pas trop. Qu'il ait assez de composantes féminines, peut-être pas trop non plus. Donc c'est une souplesse qu'on travaille, et inversement pour la femme, évidemment. Hein. Maintenant, entre l'homme complet et puis la femme complète, il y a toute une fluidité de genre qu'on va peut-être aborder.
Oui, voilà, donc une diversité des genres qu'on devrait peut-être reconnaître plus dans notre société.
Oui, mais donc là, en entendant les témoignages, je suis agréablement surprise de voir la tolérance quand même de beaucoup de gens par rapport à ça. Et donc il faudrait que dans d'autres domaines, ça suive également.
Par exemple le domaine juridique, mais ça on y reviendra plus tard. Alors prochaine étape dans notre traversée, nous rencontrons une personne qui est passée de l'autre côté de la frontière.
Attention, ne souriez pas.
Passeport.
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 Attendez quelques instants, vos photos seront bientôt disponibles.
Pour le passeport de la semaine, nous avons dressé le portrait d'Elora. Cette jeune personne transgenre de 26 ans est en fin de transition. C'est à l'exposition Medinazia au Ezel que l'un de nos journalistes a partagé un moment en sa compagnie, un portrait signé Julien.
J'étais avant quelqu'un d'assez renfermé, timide, qui prenait pas soin de sa personne. En même temps, ça peut être logique, vu que si je me sens pas bien dans ce corps, pourquoi je prendrais soin de ce corps? Et donc, je m'étais fixé comme deadline de finir mes études et après de commencer ma transition. Le problème qui s'est rajouté, c'est que quand on se sent pas bien, les études vont moins bien. Et ça a repoussé en doublant quelques années, augmentant aussi la souffrance. On peut parler d'une forme de souffrance, car les personnes transgenres sont liées dans leur transition à une attente récurrente. Pour beaucoup de choses, il faut attendre parce que ce n'est pas rapide. Pour avoir l'argent, ce n'est pas rapide. On n'est pas aidé, vraiment, vraiment pas aidé en Belgique.
Moi, je pense qu'elle aura quelqu'un de très sensible, qui est très attentive aux gens et qui sait beaucoup prendre sur elle et beaucoup s'ouvrir pour aider les personnes qui en ont vraiment besoin. Et elle sait toujours apporter les bons conseils et avoir un avis objectif sur les choses. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel à ce point-là. Ça, franchement, c'est quelqu'un que ça se voit pas à chaque coin de rue. Je l'ai vue comme ça et elle nous animait. Elle était assez... Enfin, c'était un homme à l'époque et il était... Avec tous ces explosifs et tout ça dans le jeu, c'était vraiment une personne assez excentrique et très, très sympa dans son style. Et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, on a pu interagir en jeu et c'est grâce à ça que j'ai pu faire connaissance.
L'élément déclencheur, ça a été le fait que j'ai tellement intériorisé les choses qu'un jour, je me suis un peu déconnecté de la réalité. Donc mon cerveau à 18, mon corps a marché vers les rails du métro et je me suis réveillé au bord du quai. Donc même si j'avais pas fini mes études, c'était pas volontaire de ma part, hein, faut savoir. Je m'estime être une personne trop cohérente et trop sage pour penser à ce genre de choses. Donc ça se fait malgré moi. Mais à partir de ce moment-là où j'avais décidé de commencer ma transition, même pas 3 mois plus tard, je commençais l'hormonothérapie. Il y a différentes étapes dans une transition. C'est-à-dire que quand on commence l'hormonothérapie, on est un peu sur son nuage, en flotter, tout est doux, tout est merveilleux. C'est ce qu'on pourra appeler la phase lune de miel. Donc vraiment, cette joie immense. Et on se dit que tout ira bien, tout ira vite. Puis quand la transformation commence à se faire de façon plus visible, donc passé 3 mois, auquel là il y a déjà des changements irréversibles corporellement parlant, là on serait plutôt dans la phase de chrysalide, donc comme un papillon qui se transforme dans son cocon avant d'éclore. Donc, dans cette phase-là, c'est énormément de patience. Au plus on est jeune à commencer, au plus les résultats seront bons. Mais il ne faut quand même pas se leurrer, c'est pas tout à fait la même génétique, donc c'est moins fort. Dans certains cas, la chirurgie aide, mais si on sait s'en passer, le conseil que moi je donnerais, c'est de ne pas en faire. Moi, j'ai pas trop d'épaules, j'ai un peu plus de bassin qu'une fille. Je suis pas grosse. Je suis juste grande avec une grande pointure de chaussures, pour mon grand malheur. Donc oui, je suis très fine et ça c'est féminin, donc j'ai beaucoup de chance.
L'amitié, non, ça change pas, mais c'est perturbant. J'avais jamais été dans le cas de devoir dire « elle » à quelqu'un que je voulais « il » avant. Et c'est ça, mais ça ne change rien. Enfin, c'est naturel pour moi, c'est comme si ça avait toujours été une fille pour moi, donc voilà.
Je suis bien mieux dans le rôle social féminin, même si les hormones ont changé pas mal de choses dans ma façon d'être. Hein. Ouais, bon, ça m'arrive de chialer devant un film maintenant, je le fais pas exprès. Parce que voilà, avant, quand j'étais un homme, ouais, je sentais la crise de larmes monter, je pouvais la réfréner et l'oublier, mais j'avoue qu'avec un bilan hormonal féminin, c'est vachement plus chaud.
Alors Esther Hirsch, dans le cadre de votre travail, vous avez accompagné de nombreuses personnes qui, comme Elora, ont changé de genre. À partir de quel moment on prend cette décision de venir vous voir et de changer éventuellement son genre identitaire ?
Écoutez, pour tout dépend, malheureusement, il y a des gens qui attendent très longtemps, une peur de faire le pas, une peur de ne pas être accueillis, de ne pas être acceptés. Aujourd'hui, je vois des personnes qui viennent très jeunes, et tant mieux, hein, parce que au plus tôt on s'y prend, ben, au plus on peut être en adéquation avec son sexe psychologique. Hein, sexe psychologique contredit complètement le sexe anatomique. Donc c'est certainement pas facile à vivre, mais bon, on voit des gens qui arrivent parfois à 50, 60 ans.
D'accord. Alors, à partir du moment où ils viennent vous voir, quelles sont les différentes étapes à travers lesquelles ils vont devoir passer? Quel est ce processus de transition dont il aura parlé?
Oui, il y a toute une procédure, effectivement, légale, en quelque sorte, hein, qui sont des passages obligés. Bien sûr, il y a tout un bilan médical, génétique, endocrinologique. Il y aura un testing psychologique, un examen psychologique à passer. À un moment donné, on décide de commencer le Real Life Test, ce qu'on appelle le Real Life Test, c'est-à-dire de commencer l'hormonothérapie avec une psychothérapie pendant tout ce temps-là, de minimum donc 1 à 2 ans. Et sur le plan social, pendant ce temps-là, la personne doit exister avec l'habillement dans le genre sexuel souhaité, exercer si possible une profession, et puis accompagner ça de ce qu'il faut au niveau l'épilation, la rééducation de la voix, les cours de maintien. Et c'est vrai que l'intervention chirurgicale ne peut avoir lieu qu'après cette procédure. Et après l'intervention, eh bien, il y a lieu de poursuivre un traitement hormonal à vie, un suivi psychologique, il faudra de la rééducation périnéale et une procédure juridique pour le changement d'état civil.
D'accord, une très longue liste, donc, si j'ai bien compris. Donc, est-ce qu'une nouvelle identité entraîne un changement de position par rapport à l'entourage et par rapport à la société quand vous avez accompagné vos patients, voilà, quel a été leur ressenti? Est-ce que c'est difficile?
Écoutez, tout dépend. Hein. Vous avez des patients qui sont accompagnés par leur famille, acceptés, compris. Et puis d'autres, c'est la fracture. C'est la fracture et c'est très difficile. Ceci dit, ce problème, c'est une telle impérieuse nécessité affective. C'est ce autour de quoi tout tourne dans leur vie, si bien que ça l'emporte sur tout le reste. Même s'il faut rupturer avec sa famille, changer de travail à tout point de vue, et parfois rupturer aussi au niveau social. Et puis il y a d'autres personnes effectivement alors qui heureusement viennent avoir des phénomènes de soutien.
Avant d'aller plus loin dans ce voyage à travers les eaux troubles des genres, quelques chiffres et une mise au point terminologique s'imposent.
Panorama.
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 Nous accueillons maintenant sur notre plateau Julien. Bonjour.
Bonjour Alice.
Alors tu vas nous éclairer sur les différences terminologiques à employer.
Oui, donc je vais commencer par un petit glossaire. Donc il aura pour but de déterminer un vocabulaire commun et d'assurer une bonne compréhension des termes que nous allons utiliser tout au long de l'émission. Donc tout d'abord le terme transsexuel. Donc on a posé la question à différentes associations et on a rencontré quand même beaucoup de personnes. Et selon eux, c'est un terme obsolète parce qu'il fait référence à une pathologie et il est très peu en rapport avec la réalité. Alors que le transgendérisme n'est plus considéré comme une pathologie mentale depuis maintenant plus de 10 ans en Europe, on continue à utiliser ce terme qui fait référence à une pathologie. Donc il s'agit bien ici d'une question de genre et d'identité. Alors que le terme transsexuel a une connotation d'orientation sexuelle. De plus, il véhicule l'idée fausse que les personnes transgenres veulent à tout prix changer leurs organes génitaux. Et ça, j'en reparlerai plus tard. Ainsi, le terme de personne transgenre est plus proche de la réalité, et donc c'est celui que nous allons essayer d'utiliser. Le deuxième terme, c'est la transphobie. Donc, il s'agit de la peur et du rejet des personnes transgenres. Cette transphobie se manifeste hélas très souvent par des agressions verbales et physiques. Je vais vous introduire le terme de passing. Il reviendra quelques fois dans l'émission, donc il me semble important de le faire comprendre. Le passing, c'est le fait d'être perçu aux yeux des autres en tant qu'un membre d'un genre dans lequel on n'a pas été élevé depuis sa naissance. C'est donc quelque chose de très important pour les personnes transgenres. Et pour finir avec ce petit glossaire, j'ai choisi le terme cisgenre. C'est un terme qu'on entend assez rarement, et pourtant il définit une personne dont le genre est relativement en adéquation avec le rôle social attendu en fonction de son assignation de sexe à la naissance. Exemple, une personne possédant un corps femelle et se comportant comme une femme. Voilà ce qui devrait permettre de décoder un peu mieux le sujet que nous allons aborder. Passons maintenant à quelques chiffres que je trouve assez éloquents. Concernant les opérations chirurgicales des parties génitales, seuls 10% des personnes transgenres y ont recours. Voilà qui devrait un peu tordre le cou des clichés qu'on a sur les opérations chirurgicales. Un deuxième chiffre, selon moi, qui éclaire bien l'inadaptation, de la société belge à cette problématique, c'est que 2/3 des personnes transgenres avouent déjà avoir pensé au suicide et près d'un quart d'entre elles ont déjà tenté de mettre fin à leur jour. Un petit chiffre sur l'éducation maintenant. Plus de 50% de la population transgenre a suivi un enseignement supérieur, universitaire ou non. Sachant que la moyenne belge est à peu près à 30%, on peut dire que nous sommes ici en présence d'une population proportionnellement plus éduquée que la moyenne nationale. Et un petit dernier pour la route. Saviez-vous, je me doute que non, mais je dis ça pour la forme, en moyenne 43% des personnes transgenres désirent avoir des enfants. Donc cette loi de 2007 relative au transsexualisme oblige à la stérilisation en cas de demande de changement de genre administrativement. Donc elle fait donc qu'accentuer le mal-être d'une partie de la population transgenre. Donc est-ce qu'on peut dire que la Belgique est-elle si progressiste ?
Merci Julien. Alors justement, Genre Pluriel est une association qui milite pour le droit des personnes transgenres et intersexes. À travers des conférences, des formations ou même l'atelier Trans pour les nuls, le directeur Max Nisol entend informer la population. Le but, faire disparaître les angoisses et les préjugés. Vous n'entendrez jamais le directeur utiliser le mot transsexuel, car pour lui ce terme est on ne peut plus discriminant. Reportage de Lola et Julien.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue à la Maison Arc-en-Ciel.
Merci.
Alors ici, nous sommes dans la Maison Arc-en-Ciel de Bruxelles. C'est un lieu qui regroupe une quarantaine d'associations LGBT, donc lesbiennes, gays, bi et transgenres.
Bonjour.
Genre Pluriel est une association qui a 6 ans maintenant. Qui a été créé pour visibiliser et défendre les personnes transgenres et intersexes. Dans la nature et dans la culture, ni les sexes, ni les genres, ni quoi que ce soit n'est binaire. Donc il faut essayer d'aller au-delà de l'aspect binaire en essayant de formuler d'une autre manière, de créer des termes, parce qu'en langue française, eh bien, il nous manque des terminologies pour exprimer l'au-delà du binaire. Je reprends souvent cet exemple-là. C'est une dame qui vient vers moi dans un magasin de vêtements et elle a en main deux paires de chaussettes pour enfants. Et elle est fort, fort embêtée et elle me regarde vraiment hyper angoissée en me disant mais c'est pour garçon ou pour fille ? Et elle attendait vraiment une bonne réponse, quoi. Donc pas de bol pour cette dame. Je lui ai répondu, ben, ça se met au pied. Et donc là, elle n'a pas été contente du tout, parce que ça ne résolvait pas son problème. On est pris dans un cercle vicieux. Il y a l'aspect économique qui vient foutre son nez et qui vient renforcer et réveiller des normes qui avaient disparu dans les années 70. Oui, non, c'était très bien. On en reparlera, parce que franchement... Ce qui est vraiment essentiel pour les personnes, c'est avoir de l'information. La plus juste possible et la plus complète possible. La deuxième priorité, c'est les formations, des informations, des conférences. Sinon, il y a d'autres activités beaucoup plus spécifiques. Il y a des groupes de parole pour les personnes trans-intersexes, pour l'entourage. Ça, c'est une demande exponentielle pour le moment. Il y a aussi un atelier de féminisation. Comment se féminiser sans être rentré dans le stéréotype, justement. On a psychiatrisé les femmes à un moment donné, on a psychiatrisé les opposants politiques. Donc pourquoi psychiatriser des identités ? Quel est l'objectif idéologique ? Les personnes qui ne sont pas trans, vous ne devez pas vous justifier de qui vous êtes. Vous n'allez pas devant un psychiatre, on vous fout la paix parce que vous, de toute façon vous représentez la norme. Les personnes trans ne sont pas dans la norme et c'est pour ça qu'on les stigmatise. C'est une question de norme, c'est pas une question de maladie mentale ici. Soi-disant, on est dans un état progressiste. Il faut que ça change maintenant, tout de suite. Et il ne faut plus faire appel à qui que ce soit de psychiatre, etc., sexologue et tout le bazar. Ils n'ont rien à faire avec les histoires trans. Ce n'est pas eux. Les histoires trans sont des histoires de droits humains. Point barre.
Alors, on l'a entendu, l'ASBL Genre Pluriel milite fermement pour faire disparaître le processus de psychiatrisation des personnes transgenres. Esther Hirsch, vous êtes psychiatre et sexologue.
Je ne suis pas psychiatre.
Vous êtes psychologue et vous travaillez...
Non, je suis médecin sexologue.
Médecin sexologue, pardon, excusez-moi. Que pensez-vous de cette déclaration ?
Écoutez, donc si je suis devenue sexologue, c'est parce que les psychiatres, les psychologues n'apportaient pas de réponse aux difficultés sexuelles dans le sens large. Et en fait, un problème d'identité de genre, ça se situe au niveau de la genralité, mais pas au niveau de la personnalité. Vous voyez ? Bien sûr, une personne transgenre peut avoir ses problèmes comme tout le monde, hein, et l'un n'exclut pas l'autre. Mais pour moi, ça relève plus de la sexologie. Ça relève, pardon, pas plus, mais ça relève de la sexologie clinique plutôt que de la psychiatrie.
Donc un traitement sexologique,
oui,
est toujours adapté, selon vous ?
Écoutez, je pense que dans le cas du transsexualisme, il se fait que bon, la plupart des traitements sexologiques, ça, quand elles s'attaquent aux dysfonctions sexuelles, aux addictions, etc. Ici, c'est un trouble de la généralité. Et donc, la démarche la plus adéquate est une démarche sexo-analytique. Bon, disons que peut-être que dans 10 ans, tout ça va changer et qu'on ne fera plus tout ça. En attendant, moi, quand une personne vient me dire qu'elle est transgenre, elle cherche à me prouver qu'elle est transgenre, et je lui dis, écoutez, si vous me le dites, moi, j'ai aucune raison de ne pas vous croire. Vous l'êtes. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux réfléchir avant qu'après l'intervention. Et là, on essaye de voir les dynamiques familiales qui, éventuellement, participent à la genèse de cela, parce qu'eux n'ont pas conscience que c'est une genèse.
D'accord, mais donc vous utilisez le mot, le terme trouble identitaire. C'est justement ce genre de terme que l'ASBL, genre pluriel, refuse en un sens. Ils se sentent un peu stigmatisés. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait adopter une autre approche ?
Écoutez, oui, certainement. Disons que c'est difficile de trouver le terme véritablement adéquat. Disons que. Moi, je dis souvent que le bonheur dans la vie, c'est pas de se compliquer la vie, c'est de se la simplifier. Mais quand on est transgenre, c'est quand même très compliqué. Et c'est un peu le parcours du combattant. Peut-être encore parce que la société a besoin d'évoluer, évidemment. Vous voyez ?
Alors justement, pour que cette société évolue, il faut l'informer ?
Sûrement. Sûrement, l'information est très importante. Vous savez, il y a des personnes qui, effectivement, ont des fantasmes tout à fait négatifs et les phobiques par rapport à cette problématique, notamment, c'est souvent parce qu'ils ont des problèmes eux-mêmes, d'ailleurs, que ça leur fait peur. Les mains transsexuelles sont très bien insérées dans leur vie professionnelle, sociale et autres. Et c'est pour ça que c'est pas un trouble psychiatrique.
Très bien, merci beaucoup. Et maintenant, une petite pause musicale. Nous vous invitons à monter sur le pont du bateau Frontière, respirer l'air du grand large. Voici les Kings avec leur tube Lola.
I met her in the club down in Oton Hall, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A, Lola. Lola, Lola, Lola. Well, I'm not the world's most physical guy, but when she squeezed me tight she nearly broke my spine. Oh my Lola. Lola, Lola, Lola. She walk like a woman but talk like a man. Oh my Lola. La 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 la. La 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 la. Well, we drank champagne and danced all night under electric candlelight. She picked me up and sat me on her knee. Said to
c'était Lola de The Kings. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes à l'écoute de Frontières en direct des studios de l'exposition Vue à la radio à Tour et Taxi. Aujourd'hui, nous explorons la frontière des genres. Toujours avec nous sur le plateau, Esther Hirsch.
Hirsch, médecin sexologue au CHU de Bruckmann et à Erasme. En termes de loi, de nombreux instituts ou ASBL tentent de faire évoluer les choses, mais les droits des personnes transgenres sont encore très mal protégés dans notre pays. La Belgique est d'ailleurs en contradiction totale avec le droit européen. Julien et Lola ont rencontré pour nous Michel Pastel, directeur de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Voici un bref état des lieux de la situation.
Les procédures pour changer de sexe sur la carte d'identité étaient très compliquées en Belgique avant 2007. Mais suite à une loi, les critères se sont légèrement assouplis.
Il faut savoir qu'avant 2007, pour que quelqu'un puisse changer de sexe, il y avait une procédure extrêmement lourde qui imposait un passage par le tribunal, par le juge. Donc en 2007, ce fut considéré à l'époque par les parlementaires qui ont voté la loi comme un progrès d'éviter ce passage devant le juge et de ne recourir qu'à une procédure administrative.
Pour répondre aux exigences de l'administration, la loi impose tout de même de se faire opérer et stériliser. Si cette avancée était un premier pas, il est loin d'être satisfaisant. Pour le directeur de l'Institut de l'égalité des femmes et des hommes, les conditions actuelles sont scandaleuses et il faut très vite faire évoluer les choses.
Ils ont eu une vision extrêmement médicalisante des personnes transgenres, ce qui est discriminant dans la mesure où on les considère, quand on lit ce texte, un peu comme des personnes malades, alors que ce sont des gens comme tout le monde qui ont simplement une particularité. Obliger une opération chirurgicale, obliger la stérilisation, ce sont des contraintes pratiquement abominable par rapport à l'envie d'une personne de vouloir simplement être en conformité avec elle-même, avec ce qu'elle ressent, d'exprimer son genre de la manière dont elle le souhaite. Et donc oui, c'est un frein et c'est pour ça qu'il faut changer ces lois.
À l'heure actuelle, de nombreuses discussions ont lieu, mais aucun accord n'a été trouvé. Pour ce faire, l'Institut propose plusieurs pistes de travail.
La révision des critères pour le changement de sexe, une protection légale contre la discrimination sur base de l'identité de genre et l'expression de genre. Aussi, une question importante, c'est une meilleure protection des droits des parents transsexuels. Également, et ça c'est une problématique fondamentale, nous recommandons qu'on intègre la notion de personne transgenre dans la loi sur le harcèlement.
Pour Michel Pastel, légiférer est une bonne chose. Mais ce qui est vraiment important, c'est de sensibiliser et d'informer la population. Seules ces formations permettront d'abolir la transphobie.
Alors Astérix Hirsch, on l'entend, la reconnaissance légale, c'est plutôt complexe pour des personnes transgenres. Est-ce que c'est important pour eux ?
Souvent, bien sûr, c'est très important. D'ailleurs, à l'hôpital Erasme, on fait attention, quand les personnes viennent, de les appeler dans le genre qu'elles souhaitent. C'est pas un souhait, d'ailleurs, hein, c'est de l'ordre du fait. Hein, et oui, quand on est considéré sur le papier comme ce qu'on n'est pas, forcément, c'est mal vécu.
Alors, que pensez-vous de cette loi qui impose une stérilisation pour pouvoir avoir accès à un nouveau genre juridique ? Est-ce que ça vous paraît aussi...
Écoutez, dans mon expérience, je vois des patients, notamment des patients hommes, qui sont arrivés à la transgenralité, on va dire, donc à l'intervention, via un engagement apparemment exclusivement hétérosexuel, y compris le mariage, la paternité, des activités professionnelles masculines. Et je vois que les enfants de donc ces femmes, qui sont devenus des hommes qui sont devenus des femmes, vont très bien. Ce sont des enfants qui vont pas plus mal que les autres.
Mais est-ce qu'on ne devrait pas pouvoir permettre de changer de genre juridiquement parce qu'on se sent homme ou femme, mais de rester physiquement peut-être entre les deux,
capable de procréer. Oui, je pense qu'effectivement, ça c'est une question de d'identité personnelle. Alors hein, chaque personne doit vivre selon sa conviction et son sentiment profond.
Et donc la société ne devrait pas forcément poser une frontière homme-femme. On pourrait éventuellement pouvoir être entre les deux, se sentir homme, avoir le corps d'une femme.
Oui, il y a des personnes qui ne peuvent renoncer ni à l'un ni à l'autre, effectivement. Mais tout ça a une signification. Donc moi, j'ai surtout une expérience clinique, c'est-à-dire de l'individu. Et j'essaie de l'aider à comprendre la signification que ça a pour elle. et dans quoi elle va être la plus heureuse.
Au CHU de Liège, l'équipe des genres accueille depuis 30 ans ces personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur corps. Si ce genre d'opération est maintenant possible, elles ne peuvent avoir lieu qu'après 3 ou 4 ans de préparation. Lola a rencontré pour nous le docteur Robert Andrienne dans son bureau à Liège.
Au CHU de Liège, le département de médecine sexuelle accueille environ 75% d'hommes pour 25% de femmes. Et souvent, les hommes sont assez jeunes.
On est amené régulièrement à prendre en charge des jeunes hommes, ça veut dire moins de 18 ans. Ça veut dire des enfants qui se sont jamais bien trouvés dans leur genre, qui ont jamais des garçons qui n'ont jamais joué au train électrique, qui n'ont jamais joué avec un petit pistolet et qui... très tôt ont été un peu catégorisés par leur famille ou surtout dans leurs écoles comme étant quelqu'un pas comme les autres. Le but, ce n'est pas de les remettre, on va dire, dans le droit chemin. Loin de là, c'est plutôt de leur assigner le genre qui est important pour eux pour faire leur bonheur, parce que la vie, finalement, c'est essentiellement ça.
Si les jeunes hommes de moins de 18 ans peuvent se rendre au CHU, ce n'est pas pour autant qu'on les opère directement. Pour pouvoir changer de sexe, il faut passer par plusieurs étapes.
La deuxième étape, s'il s'avère que le cas mérite une attention particulière et qu'il y a éventuellement un changement de genre qui s'envisage, c'est de manipuler les hormones. C'est encore une phase réversible, donc elle va durer quelques mois, voire quelques années, sous contrôle d'un médecin qui s'appelle un endocrinologue. Donc on est encore là, en suivi psychologique, voir un peu comment la personne va réagir au traitement hormonal, au niveau de la pilosité, de la poitrine, de la répartition des graisses, de plein de choses, de la voix. Et c'est vraiment à la fin de la procédure, c'est-à-dire 2, 3, voire 4 ans après le début de la prise en charge, que toujours sous couvert d'un soutien psychosexologique et psychologique ou psychiatrique, on envisage de prendre le bistouri pour faire quelque chose qui devient irréversible. Et là, il faut réfléchir, bien sûr, énormément avant de faire les choses.
Ces changements physiques sont très importants pour les personnes transgenres. Selon une étude de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, près de 33% de cette population a déjà tenté de se suicider. Pour le docteur Andrienne, l'opération permet de diminuer ce triste chiffre de moitié. Il faut donc aller plus loin et offrir plus de possibilités.
Je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est la différence entre la maturité légale et la maturité physique et psychologique d'un jeune. Je pense qu'aujourd'hui, les textes de loi sont très rigoureux et que la transformation ne peut s'envisager qu'à l'âge de 18 ans, en théorie. Ça mériterait d'être réévalué, et encore une fois, les psychologues et les psychiatres doivent nous aider à ça, parce que ce qui se passe au moment de l'adolescence, c'est parfois pour un jeune qui souhaiterait changer de genre, il va être très malheureux. Il y a un grand danger de sous-estimer la détresse de ce type de jeune patient. Il serait peut-être opportun d'envisager des traitements plus précoces pour éviter qu'ils attrapent de la barbe, qu'ils attrapent une voix un peu rauque, qu'ils attrapent une augmentation de testicules et que la verge prenne une taille. Et peut-être l'envisager plus tôt avec une réflexion très importante.
À l'heure actuelle, le docteur Andrienne accueille une centaine de patients par an, mais il espère bien que les lois s'assoupliront pour pouvoir aider plus de jeunes.
Alors Esther Hirsch, est-ce que vous faites le même constat que le docteur Robert Andrienne ? Vous l'avez dit, vous avez travaillé avec beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il faut revoir la maturité légale pour pouvoir changer éventuellement de genre ?
Écoutez, je pense que d'une façon générale, on ne peut pas travailler dans l'urgence, hein, ça c'est sûr. Et donc, il faut être quand même très prudent. Et peut-être que c'est notre propre anxiété à nous, médecins, parce que finalement, l'intervention chirurgicale, c'est transformer un être sain en un individu mutilé et malade, quelque part, puisqu'il a besoin d'un traitement hormonal à la vie. Évidemment, la plupart se sentent soulagés par l'intervention, le changement de vie, d'état civil, et donc voilà. Et au plus tôt on s'y prend, au mieux c'est. Maintenant, j'avoue que moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à savoir à peu près à quel moment Je crois qu'effectivement, 18 ans, ça sûrement. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui peuvent venir plus tôt et au moins de savoir qu'elle a cet espoir, cette perspective. Et peut-être que dans le suivi, effectivement, dans les peut-être 14-16 ans, pourrait être une bonne chose.
Quelle est la place des parents dans ce processus ?
Mais écoutez, les parents qui sont ouverts, compréhensifs et qu'il faut aussi accompagner hein, dans cette procédure, effectivement, c'est très important pour l'enfant. Et je vous assure que quand les parents sont fermés, n'acceptent pas cette problématique-là, ben c'est extrêmement douloureux.
Vous en rencontrez beaucoup ? Comment ça se passe ?
Écoutez, donc moi, oui, je rencontre effectivement des jeunes qui viennent avec leurs parents, d'ailleurs, et ça, c'est formidable. Maintenant, je vois des jeunes aussi qui viennent avec le père ou la mère, avec une opposition farouche, hostile, à la limite, et une hostilité vis-à-vis du médecin, comme si nous, on était responsables du mal-être de leur enfant. Et là, c'est très difficile.
Alors, on l'a entendu dans ce reportage, cette transformation prend 3 à 4 ans pour aller au bout du processus. Mais est-ce qu'il faut nécessairement aller jusqu'au bout, c'est-à-dire utiliser le bistouri et voilà.
Écoutez, là, je crois qu'on répond à la demande.
Oui.
Je crois que les personnes qui se vivent dans l'autre genre que leur sexe anatomique, mais qui nécessairement ne veulent pas passer au bistouri, ben je crois qu'il faut répondre à leur demande, évidemment.
Alors, vous avez entendu tout le long de cette émission des personnes transgenres s'exprimer. Vous n'avez pas pu les voir, mais la voix est une fenêtre sur leur identité. Elle joue un rôle dans l'expression du genre. Nous avons rencontré Alice Faquet, logopède spécialisée en féminisation vocale. Une interview de Julien.
D'après vous, quels sont les facteurs qui peuvent influencer l'identité de genre dans la voix ?
La voix, elle est déterminée par la fréquence. Donc la fréquence, c'est les cycles de vibration de vos cordes vocales. Donc voilà, les femmes ont tendance à avoir une voix plus aiguë et les hommes une voix plus grave. Ensuite, le genre de la voix est aussi déterminé par l'intensité. En effet, les hommes sont capables d'avoir un volume plus haut que les femmes. Ensuite, la voix, elle est déterminée par le timbre, c'est-à-dire la couleur, la manière dont la vibration des cordes vocales va résonner dans les différentes cavités, donc dans le nez, au niveau du larynx et à l'arrière de la bouche, pardon. Et ensuite, la voix est déterminée également par tous les aspects prosodiques, donc c'est-à-dire l'intonation, l'accentuation, le débit et aussi la mélodie. Donc voilà, les femmes ont tendance à parler un petit peu plus posément, doucement, mais avec surtout beaucoup plus d'intonation dans la voix. Elles ont tendance à relever beaucoup plus leur fin de phrase. Au-delà de ça, il y a aussi le vocabulaire. Les femmes n'utilisent pas le même vocabulaire que les hommes. Voilà, certains mots sont un petit peu plus stéréotypés que d'autres. Et enfin, la syntaxe. On n'utilise pas forcément les mêmes tournures de phrases en fonction qu'on soit un homme ou une femme.
Et donc, pour une personne transgenre, cette voix a forcément du sens quand elle est en quête d'une sorte d'identité ou de vouloir représenter socialement au moins son appartenance.
Ben oui, c'est sûr, la voix, c'est souvent quelque chose qui fausse un petit peu l'identité. Enfin, la quête d'identité des personnes transgenres, elles ont souvent tendance à se plaindre de leur voix, parce que leur voix, ben, finalement, ça, c'est le reflet aussi de l'identité. Et dans certaines situations, comme par exemple le téléphone ou juste les situations quotidiennes, c'est aussi un outil de passing, donc vraiment d'être connue en tant que dans le genre dans lequel elle souhaite être perçu.
Alors, est-ce que ce changement de voix est une étape importante dans le processus de transition identitaire ?
Il est certain que la voix reflète beaucoup de choses et une personne transgenre qui a le sentiment qu'on la reconnaît dans le genre souhaité, notamment par rapport à sa voix, c'est un bonheur. Et donc la rééducation de la voix, ça fait partie véritablement du travail.
Alors justement, quelles sont les différentes techniques ?
Bon, les techniques de rééducation de la voix, ça c'est plutôt la logopède qui l'a, hein, donc moi je ne la connais pas, mais ce que je sais que c'est très important.
Mais je pense aussi qu'on peut faire des opérations chirurgicales pour changer éventuellement la voix, travailler avec du silicone.
Oui, c'est pour ça que dans l'équipe que nous avons à Erasmus aussi, nous avons des ORL qui regardent effectivement les possibilités, avec notamment des endoscopies, etc., au niveau des cordes vocales.
D'accord, très bien. Merci Esther Hirsch. Je rappelle que vous êtes sexologue au CHU de Bruckmann et à Erasme.
Les passeurs.
Les passeurs.
Les passeurs.
Les passeurs.
Le passeur de la semaine, celui qui nous emmène de l'autre côté de la frontière, c'est Romain. Bonjour.
Bonjour Ali, salut à tous.
Alors, tu t'es rendu dans un dancing dans le Hainaut qui organisait ce soir-là un show transformiste et tu as accompagné la troupe pendant sa transformation.
Oui, et d'ailleurs, je vous propose de vous y emmener. Alors voilà, cette aventure pour moi, elle a commencé directement sur le chapeau de roue. Hein. Pas le temps de faire un tour au bar, je suis rentré directement par derrière, direction les backstage. Toute la troupe du Claudie Bertrand Show était là et commençait sa préparation. Et ce que j'ai remarqué pendant cette transformation, c'est que pour ces hommes, la seule chose qui changeait, c'était les habits qu'ils portaient. Ils étaient avant tout contents d'être là, contents de se retrouver entre copines, hein, comme ils disaient. Et ce qu'on sentait, c'est qu'ils faisaient ça surtout pour le plaisir et pas du tout pour se donner un genre. Pour eux, le transformisme, c'est juste, comme je vous l'ai dit, du spectacle. C'est un costume tout serré et plein de plumes qu'ils enfilent le week-end pour échapper à leur quotidien. Et je vous propose justement d'écouter Claudie Bertrand à ce propos.
Dès qu'on commence à se maquiller, en fait, on a un autre personnage. En autant, on est assez timide, renfermé sur nous-mêmes. Et une fois qu'on est maquillé, on fait n'importe quoi. Ce qu'on fait en scène, on ne pourrait pas le faire dans le privé. Non. Jamais. Moi, c'est un personnage. Une fois que tu es maquillé, déjà quand tu as ton fond de teint, tu as un masque. Et voilà.
Disons que la personne qui est en dessous n'existe plus. Et c'est le personnage de scène qui ressort à ce moment-là, si tu veux. Mais bon, c'est la plupart des artistes, qu'ils soient chanteurs aussi, que ce soit Mylène Farmer ou n'importe qui, c'est un personnage sur scène, mais est-ce qu'elle est vraiment dépressive dans la vie? Je ne pense pas.
Je vous laisse avec le Claudie Bertrand Show. Bonne soirée.
Et là, le show commence, et sur scène, à défaut d'être des femmes, elles ont en tout cas voulu être fatales. Hein. Et tout y passe, des dizaines de costumes, des imitations, des chansons, des plumes, des strass, des paillettes, etc., etc., etc. Et ce qui en ressortait vraiment, c'est qu'on était face à des gens totalement décomplexés. Et vous savez, hein, quand on est un homme, être une femme libérée, c'est pas si facile. En même temps, il faut dire qu'elles étaient pas si fragiles non plus. Fallait entendre leurs blagues, hein, pas toujours très fines. Contrairement à leurs jambes, d'ailleurs, qui pourraient rendre jalouses pas mal de demoiselles dans notre public. Hein. Enfin bref, pour elle, la frontière ne semblait pas tellement se situer au niveau du genre. Elle séparait surtout la semaine et leur boulot de cuisinier ou de commercial et le week-end où elle pouvait devenir des stars. Preuve en est que quand j'ai demandé à Claudie s'il avait déjà pensé que ce que serait sa vie s'il était une femme au quotidien, il m'a regardé avec un tel dégoût que j'ai eu presque honte d'avoir posé ma question.
Merci Romain. Une brève réaction par rapport à cette immersion, Esther Hirsch.
Ben écoutez, moi je vais parler de l'hypothèse de Robert Stoller, qui est un psychiatre américain et qui a posé, c'était dans les années 80, l'hypothèse de la proto-féminité, c'est-à-dire de l'existence d'une féminité primaire commune aux deux sexes à la naissance et liée à la fusion à la mère. Donc c'est comme si son hypothèse, ça c'est une hypothèse, nous étions tous au départ féminins. La fille peut rester proche de sa mère, donc est restée une femme. Le garçon, lui, doit s'en détacher pour s'identifier au père. Et donc la masculinité apparaît donc comme une construction secondaire, donc plus fragile. Et peut-être qu'on pourrait mettre l'hypothèse que l'homme garde cette nostalgie de cet objet perdu plutôt que les filles. Et donc, de temps en temps, de revenir à cette féminité primaire, on dirait, dans une sorte de travestissement, créer une sorte d'état de félicité, comme ça, momentané, hein, dans cette vie de labeur, ça peut les aider à effacer les misères de la vie.
Dernière étape dans cette exploration des genres, nous sommes allés à la rencontre de Julie Degang. Elle est historienne à l'ULB, elle s'est penchée lors de ses travaux principalement sur la gynécologie et le changement de sexe. D'après elle, le passage par opération d'un genre vers un autre est dû essentiellement à la pression sociale. Elle dénonce le besoin de la société de placer les gens dans des cases.
Vous savez, on oblige les trans à se faire opérer. On les oblige à être stérilisés aussi, mais donc la transformation dans la mesure du possible, du point de vue médical, des organes génitaux vers ceux de l'autre sexe est obligatoire. Et donc ça implique l'idée que finalement, il faut être crédible pour le reste de la société. Donc si vous choisissez une catégorie, vous devez tout prendre. Et donc on applique la catégorie telle qu'elle avec les petites lèvres, le clitoris, etc., etc. Et donc, j'ai déjà entendu plusieurs fois, même de nombreuses fois, des personnes me dire « Oui, mais c'est normal, parce qu'imaginez, vous sortez avec quelqu'un, vous rencontrez une femme dans un bar, puis vous vous rendez compte qu'elle a un pénis. Ça ne va pas du tout. » Ou alors, un ancien homme, une ancienne femme qui est devenue homme, et qui aurait gardé sa capacité reproductive. Donc c'est l'idée que finalement, les frontières seraient brouillées, et que finalement la signification d'être homme ou femme telle qu'on les comprend aujourd'hui serait transformée, et ça c'est vu de manière très, très dangereuse, ça fait peur aux gens.
Pour Julie Degang, l'idée donc de vouloir changer de sexe serait, au-delà de l'aspect biologique, symbole d'une volonté de se définir, de pouvoir s'inscrire de façon claire dans un monde qui nous entoure.
On peut avoir conscience du fait que le biologique n'est pas déterminant dans notre identité, mais néanmoins vouloir... marquer le coup, on va dire, sur notre corps quand même, parce que c'est un outil d'expression aussi. Et que si tout le monde considère que pour être un vrai homme ou une vraie femme, il faut ces organes génitaux-là, et que nous-mêmes, nous voulons nous sentir bien, eh ben, c'est compréhensible aussi de vouloir correspondre à une norme. Mmh. On fait ça tout le temps.
Alors, Esther Hirsch, j'ai vu, vous vouliez réagir. Que pensez-vous de ce que Julie Degang vient de dire?
Mais écoutez, nous, sur le plan thérapeutique, il n'est bien sûr pas question d'imposer quoi que ce soit. Hein. Il faut que la personne soit en adéquation avec elle-même, ça c'est une première chose. Maintenant, beaucoup de transsexuels, enfin, les transgenres, pris pour avoir cette intervention, veulent se débarrasser de leur sexe. Les femmes qui veulent devenir un homme évitent leur nudité, veulent camoufler tout ce qu'elles ont de féminin, veulent se débarrasser. Les hommes n'ont qu'une angoisse de castration. Hein, leur pénis est une chose étrangère et ils veulent s'en débarrasser. Mais on répond à cette demande-là.
D'accord, donc pour vous, ce n'est pas forcément la société qui en quelque sorte pousse ces personnes à aller au bout d'une transformation physique pour faire partie d'un genre défini ?
Mais écoutez, il est certain que les transgenres voudraient correspondre, un petit peu être acceptés dans le genre souhaité. Et pour être acceptés, peut-être qu'ils peuvent faire des choses qui vont au-delà de ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail avec eux pour vraiment être sûr de leurs attentes.
Et donc, est-ce qu'on pourrait inclure, vous parliez au début de l'émission, de cette diversité de genre qui peut exister. Est-ce qu'on pourrait inclure cette notion de diversité dans les petites choses du quotidien, ou même éventuellement créer un troisième genre ou une diversité de nouveaux genres, par exemple sur la carte d'identité?
Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je voudrais pas, je ne m'insurge pas d'avoir cette capacité de pouvoir décider ce genre de choses. Mais sur le plan individuel, hein, tout ça doit rester vraiment quelque chose de personnel, d'individuel, et il faut vraiment être à l'écoute de leurs attentes.
Merci beaucoup Esther Hirsch d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est ici que se termine cette émission. Nous tenons à remercier l'équipe technique composée de Frédéric Collignon à la transmission, de Thomas Baquet en régie finale et de Philippe Deschambre en mixage. La semaine prochaine, nous aborderons la frontière physique, qu'elle soit relative au toucher, à la vue ou à l'ouïe. Et pour ce faire, nous décortiquerons le handicap et ses facettes socio-économiques, toujours en direct de Tour et Taxi. D'ici là, portez-vous bien, à la semaine prochaine.
Vous venez d'entendre la rediffusion de Magma. Ouais, c'est pas Magma, hein. C'est Frontière, c'est bien ce qui me semblait. Frontière. C'est pour ça que je me demandais.
Mais j'allais demander après.
Vous venez d'entendre la rediffusion de Frontières, le magazine... Ah ! Vous venez d'entendre la rediffusion de Frontières, le magazine des masters en journalisme de l'ULB. J'en fais. Vous venez d'entendre la rediffusion de Frontières, le magazine des masters en... Ah, mais merde, j'arrive pas, je suis désolé. Vous venez d'entendre la rediffusion de Frontières, le master des masters... Oh, putain. Le magazine des masters en journalisme de l'ULB.
Ça va ? Mais je suis où, ici ? Eh bien, je suis pas où je dois être. Hein ? Je suis sur Radio Campus. Ça alors ? C'est la radio que vous écouterez quand vous serez plus grand, les lardons. Bon bah, ciao, ciao.